L'Occident est aujourd'hui plus vulnérable que jamais, affirme le leader de la révolution islamique. L'Afrique est une terre d'opportunités. Il ne faut pas le négliger, selon le président iranien Ebrahim Raisi. Et la fête du 14 juillet, annulée dans beaucoup de villes en France, c'était le principal titre de l'actualité. En voici les détails. Le leader de la révolution islamique, l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei, a reçu en audience un groupe de séminaristes des écoles religieuses à Téhéran. L'ayatollah Khamenei a souligné l'importance du maintien de l'ordre islamique et de la foi du peuple au moment où la propagande s'est de plus en plus développée avec toutes sortes de méthodes basées sur la science et la diffusion d'outils, dont Internet et l'intelligence artificielle. Par conséquent, le bon sens dicte que nous considérions la propagande comme la première priorité face aux épées sanglantes de la propagande ennemie, a souligné le leader. L'ayatollah Khamenei a également considéré les progrès dans les méthodes pour rendre le message crédible comme l'une des réalités d'aujourd'hui, dixit, utilisant diverses sciences, y compris la psychologie. Les Occidentaux propagent des faux messages qu'ils font passer pour la vérité auprès de l'opinion publique. Fin de citation. Le leader a ainsi appelé à la vigilance face à ces méthodes de propagande et ses ruses pour ne pas se laisser influencer culturellement. Plus loin dans ses propos, il s'est attardé sur les crimes commis par la France en Algérie pour dire « Les Français ont commis des crimes et tué des gens en Algérie pendant plus de 100 ans. Des dizaines de milliers de personnes ont été tuées en quelques années. Ils ne sont pas des démocrates. Ils mentent. » Le leader de la révolution islamique a ensuite évoqué le conflit en cours en Ukraine et a critiqué la politique de l'Occident d'exploiter les nations à leur propre avantage. L'ayatollah Khamenei a déclaré que les grands cartels occidentaux, motivés par leurs intérêts dans le commerce des armes, cherchent à prolonger la guerre en Ukraine. Mettant l'accent sur la vulnérabilité de l'Occident, le leader a déclaré que les États-Unis, confrontés à de nouveaux défis chez eux et à l'étranger, et incarner le mal sous différentes formes, notamment le racisme et la cruauté. Suite du journal, de retour de sa tournée africaine, le président Raisi a brossé un tableau des acquis de ses visites au Kenya, en Ouganda et au Zimbabwe, qui renforcerait la profondeur stratégique de la République islamique d'Iran sur le continent noir, selon ses propres termes. Les relations avec l'Afrique sont aussi importantes que celles avec les pays du continent asiatique et d'autres parties du monde. Et cette terre d'opportunité ne doit pas être négligée, a déclaré Raisi dès son arrivée à l'aéroport de Mehrabad ce vendredi 14 juillet. Depuis le début de la révolution islamique, grâce aux directives de l'imam Khomeini et du leader de la révolution, ainsi qu'au dévouement des martyrs, l'Iran a établi des relations avec de nombreux pays africains qui se sont intéressés à la révolution islamique en raison de son opposition au colonialisme et sa quête du droit, a-t-il indiqué. Insistant sur le renforcement des liens avec les pays africains, il a dit que ces derniers disposent d'innombrables ressources et réserves naturelles de mines et de talents. Selon le président iranien, sa tournée en Afrique suivait deux objectifs, à savoir renforcer la profondeur stratégique de la République islamique en Afrique, consolider les relations économiques et commerciales. En plus, les préparatifs de la création de marchés d'exportation pour les produits fondés sur le savoir et la connaissance ont été réalisés dans le cadre de ce voyage. Aujourd'hui, nous sommes fiers de produire des produits basés sur la connaissance qui ont un bon succès sur le marché. L'Afrique s'intéresse aux produits iraniens basés sur la connaissance, a dit le président. L'approvisionnement en matières premières a été un autre objectif de cette tournée africaine. La culture extraterritoriale a été également abordée. Pour le président Raisi, en Afrique, il existe un bon terrain pour la production de biens de base. La communication scientifique et technologique a été un autre thème traité par l'Iran et ses partenaires africains. Dans ce cadre, les trois pays ont ouvert un bureau pour se familiariser avec la technologie iranienne. Les estimations indiquent que les missiles du Hezbollah sont capables de tuer des centaines, voire des milliers de sionistes en cas de nouvelle guerre, affirme le chef du Conseil des colonies de peuplement, Mojeh Davidovitch. Davidovitch a confirmé au micro de la chaîne de télévision israélienne Channel 13 que les colons du nord de la Palestine occupée, près de la frontière libanaise, vivent dans un état de grande anxiété. « Je ne dors pas bien la nuit, ainsi que tous les habitants de la ligne de front. Ce qui s'est passé et ce qui se passe ces derniers temps sont un phénomène que nous n'avons pas vu et cela a inquiété les habitants de cette région », a-t-il dit. Reconnaissant l'inefficacité des équipements militaires à la disposition de l'armée israélienne, il a noté que le danger le plus important résidait dans le fait que les résidences dans les colonies de peuplement ne sont pas assez solides pour résister aux éventuelles attaques du Hezbollah, invitant ainsi les colons à prier pour que la guerre n'éclate pas. Cela intervient alors que Zvika Fogel, membre de la Knesset ou Parlement israélien, a tenu des propos entérinant la puissance du mouvement de résistance libanais, disant « Le Hezbollah monte en puissance quand il voit notre faiblesse » et les concessions à commencer par la démarcation des frontières maritimes et la signature de l'accord sur cette affaire, fin de citation. Plus tôt, les médias du régime sioniste ont rapporté que le Hezbollah était prêt pour s'engager dans une guerre à grande échelle face à ce régime. Ils ont reconnu que le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, était passé maître dans l'art d'identifier les points faibles du régime israélien. On vous lisait aussi en titre « Pour éviter de revivre les scènes de chaos, certaines mairies françaises ont préféré annuler les festivités du 14 juillet. » En effet, de nombreuses agglomérations ont annulé leurs feux d'artifice et les festivités du 14 juillet par crainte d'être abordées par de nouvelles violences, 2 semaines seulement après les émeutes, entre guillemets. C'est un choix simple. En se disant qu'il y avait déjà eu assez de feux et d'artifices les derniers jours et que ce n'était pas la peine d'en rajouter, a déclaré amer. Ce sont les communes éprouvées par les émeutes qui ont préféré annuler les festivités. Il s'agit par exemple de la commune de Roubaix. Des annulations qui ont mis en colère les politiciens de droite comme de la gauche, car elles ne font pas l'unanimité. C'est ainsi que le communiste Fabien Gay, sénateur communiste de Seine-Saint-Denis, s'est insurgé contre des annulations qu'il considère comme punitives pour la population. Il fustige certains maires qui ont affirmé que les économies réalisées permettront de préparer les dégâts commis par les émeutiers, c'est-à-dire manifestants. Plus dur encore, c'est David Lisnard, le président de l'Association des maires de France, qui a déploré sur un ton très colérique que c'est à cause de voyous, selon ses propres termes, qu'on doit annuler la fête. Dans une tribune parue dans le Figaro Vox, l'ancien candidat à la présidentielle, Éric Zemmour, a également fustigé Dixit pour le 14 juillet, on n'ose même plus célébrer la France. Le gouvernement français a quant à lui publié un décret interdisant la vente, le port, le transport et l'utilisation des mortiers d'artifice pendant le week-end du 14 juillet sur l'ensemble du territoire. C'est à Nanterre, Haute-Seine, ville d'où ont démarré les émeutes, entre guillemets, que la première annulation de feux d'artifice semble avoir été annoncée. À Aulnay-sous-Bois, Seine-Saint-Denis, le maire a annulé le feu d'artifice et le bal des pompiers. Il a rappelé sur la chaîne BFM TV Paris que sa ville avait cumulé 10 millions d'euros de dégâts lors des émeutes ou manifestations. Pour éviter de nouvelles émeutes suite à la grosse colère engendrée dans toute la France du fait de l'assassinat sous fond de soupçons de racisme de l'adolescent Naël par la police, Le ministère de l'Intérieur a pris le mercredi un communiqué dans lequel il a annoncé que 130 000 policiers et gendarmes seront déployés dans toutes les rues du pays à l'occasion de la fête nationale du 14 juillet, célébrée depuis 1880. C'était le journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez à l'écoute de notre commentaire politique. Adhésion de l'Iran à l'OCS, l'ordre unipolaire dirigé par les USA, remplacé par le nouvel ordre mondial multipolaire. Tel est le thème de notre commentaire politique d'aujourd'hui. Le 4 juillet, alors que les États-Unis fêtaient leur 247e anniversaire, l'Iran célébrait la naissance d'un nouvel ordre mondial multipolaire destiné à remplacer l'ordre unipolaire dirigé par les USA, selon le site d'information américain The Hill. Ce n'est pas un hasard si l'adhésion de l'Iran à l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, a eu lieu le jour de l'indépendance des États-Unis, écrit The Hill, se référant à Sputnik, l'agence de presse russe. Et The Hill de poursuivre que l'Iran est officiellement devenu le 9e membre à part entière de ce bloc sécuritaire et économique dirigé par la Chine, lors du sommet virtuel du groupe le 4 juillet. La Chine, la Russie et l'Iran ont créé ces dernières années un bloc politique, sécuritaire et militaire en opposition à l'Occident appelé l'Alliance tripartite. L'adhésion à part entière de l'Iran à l'OCS renforcera davantage le statut de cette organisation. En tant que moteur économique de ce bloc tripartite, la Chine renforce l'économie iranienne qui fait l'objet des sanctions américaines, notamment en achetant le pétrole du pays. Désormais, l'adhésion à l'OCS devrait rendre inefficaces les sanctions dirigées par les États-Unis contre l'Iran. Washington voit ainsi s'éroder son influence pour exercer davantage de pression sur l'Iran, ajoute The Hill. En outre, l'OCS est un bastion important où la Russie et l'Iran, frappés par des sanctions, se soutiennent mutuellement. L'OCS balise le terrain à la Russie et à l'Iran pour alléger les effets des sanctions de l'Occident. Les relations bilatérales entre l'Iran et la Russie se sont considérablement développées ces dernières années. Fondée en 2001 par la Chine et la Russie, l'Organisation de coopération de Shanghai est un groupe sécuritaire et politique eurasien qui regroupe également l'Inde, le Pakistan, le Kazakhstan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan et l'Iran, nouvellement admis. L'adhésion de l'Iran à l'OCS fait de ce bloc dirigé par la Chine un défi majeur pour les États-Unis en matière de sécurité nationale et de politique étrangère. La scène géopolitique évolue en faveur de la Chine. Et les États-Unis doivent formuler une stratégie globale pour inverser ou ralentir ce changement, ajoute The Hill. Pour contrer Pékin, Washington doit augmenter ses capacités de dissuasion conventionnelle. La volonté de la Chine et sa capacité à prendre le contrôle sur Taïwan par la force semblent augmenter, selon The Hill encore. La stratégie de la Chine au Moyen-Orient consiste à encourager l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et d'autres États membres du Conseil de coopération du Golfe Persique à réduire leur partenariat stratégique avec les États-Unis et à rejoindre l'axe sino-russe. Le premier sommet CCGP Chine qui a eu lieu fin 2022 a été un tournant historique sonnant le glas pour les États-Unis. Dans ce droit fil, l'administration Biden n'a qu'à rassurer ses alliés que Washington ne quittera pas la région.